Chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Écho de ma commune consacrée aux prochaines élections législatives qui vont avoir lieu partout en France. Et ce qui nous préoccupe, c'est la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir. Je reçois aujourd'hui avec Jean-Marie Pilet, monsieur Adrien Denis, lutte ouvrière. Bonjour monsieur Denis.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Marie.
Donc,
nous commençons cette émission avec une question toute bête. Enfin, c'est moi qui l'ai rédigée, donc je peux le dire. Vous désirez, dites-vous, porter la voix des travailleurs. Et vous êtes professeur d'histoire au Collège Camus de Dreux. À ce sujet, que pensez-vous de la nomination du nouveau ministre de l'Éducation et de la Jeunesse ?
Écoutez, pas grand-chose pour être honnête. J'ai l'impression là, qu'on part sur un nouveau... gouvernement qui ressemble beaucoup au précédent, donc j'en attends rien de particulier.
Il y a quand même beaucoup de changements.
Oui.
Il y en a 13 qui restent et 14 qui entrent.
En effet, mais c'est un gouvernement, j'ai pas bien compris là s'il était destiné à durer ou si on attendait les législatives pour recommencer, donc bon.
Auquel cas les nominations, à votre avis, auraient lieu pour un mois. C'est une possibilité que vous évoquez.
Voilà.
Bruno Le Maire, oui, qui reste, bien entendu. Monsieur Darmanin à l'intérieur, monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Pour ce monsieur Pape Ndiaye, est-ce que ses positions actuelles ou anciennes peuvent poser problème au niveau de l'éducation nationale ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Honnêtement, pas grand-chose. Je connais comme historien, mais en revanche, j'ai l'impression...
C'était un historien réputé.
Oui, et intéressant sur son domaine, mais... Là, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personnalité, comme on en a eu d'autres, nommée par Emmanuel Macron, ministre. J'attends...
Vous préfériez Jean-Michel Blanquer, ceci dit...
Certainement pas. Certainement pas, mais par contre, j'en attends rien de particulier. Je pense que c'est une de ces personnalités qui va être nommée pour appliquer la politique d'Emmanuel Macron, comme Jean-Michel Blanquer l'avait été et comme d'autres l'avaient été. D'ailleurs,
donc ça ne va rien changer, à votre avis, c'est la même chose.
Alors, quel genre de représentant aimeriez-vous à l'éducation nationale ? Pour ne pas faire une démarche marketing, parce que là, manifestement, c'est peut-être une démarche marketing.
Une politique qui puisse vous convenir, enfin, une politique. La mise en œuvre, par exemple, de programmes spécifiques.
Plus que la tête d'affiche, ce qui m'intéresserait, c'est un changement de cap à l'éducation nationale et dans tout un tas d'autres domaines, avec les moyens qui nous manquent. Avec la création des postes, là, bon, on ne va pas discuter trop longtemps de l'éducation nationale, je pense, mais par exemple, les concours de recrutement ont eu lieu, c'est une catastrophe. Il y a peu de postes, il y a peu de candidats au concours, et parmi ces peu de candidats, certains postes ne seront même pas tous pourvus. Donc on est en train de creuser une pénurie d'enseignants, comme on la connaît déjà dans le monde de la santé.
Votre métier ne fait plus rêver. C'est plus le plus beau métier du monde.
Manifestement, non.
Il y avait un film avec Gérard Depardieu comme
oui,
ça,
oui.
Qui était vraiment...
Le plus beau métier du monde.
Le plus beau métier du monde, oui, ça ne l'est plus.
Bah là, les jeunes, en tout cas, votent avec leurs pieds.
Oui.
Sur ce plus beau métier du monde.
Et j'ai entendu récemment sur plusieurs médias qu'en effet, il y avait très peu de candidats. Beaucoup de jeunes se détournent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait plus pour les attirer vers votre profession ?
Bah, je pense que la solution, elle est simple. Hein. Il manque, on a besoin de moyens. On manque de moyens par rapport aux effectifs, par rapport à des élèves avec des profils particuliers. Et puis la rémunération. Là, on a des salaires qui sont peu ou prou bloqués depuis 10 ans.
Vous pouvez nous donner un exemple de salaire ?
Le chiffre qui m'a frappé là, dans une publication syndicale, je crois, un nouveau professeur démarre, j'ai peur de me tromper, mais à 1,14 SMIC. Donc c'est-à-dire presque pas au-dessus du SMIC.
Et le SMIC était à 1200 euros, 1300 euros.
C'est un métier qui est quand même mal rémunéré, dont le salaire recule, puisque les points d'indice sont gelés depuis à peu près 10 ans, et qui recrute à partir de Bac plus 5. Donc ceux qui en ont la possibilité font autre chose.
De longues études.
Relativement.
Plus 5, oui, ça commence à faire déjà.
Ça commence à faire.
C'est un master.
C'est ça, c'est la masterisation, oui.
Et alors évidemment, vous avez beaucoup de difficultés avec les classes, vous le disiez, qui devraient être plus structurées pour aider les enfants en difficulté. Et il y a beaucoup de collèges qui sont équipés avec ces classes ou bien c'est difficile de trouver des établissements qui puissent les accueillir.
Bah, de toute façon, on les accueille. Hein. On fait notre métier.
Oui, bien sûr.
Et heureusement, un certain nombre de collègues ont une sacrée conscience professionnelle pour se démener, pour réussir à faire des choses. Et c'est comme ça que ça tient, d'ailleurs. Mais,
vous diriez presque que c'est une vocation, finalement.
Parmi ceux qui restent, oui, il y a aussi énormément de dévouement et bien sûr d'intérêt et de... Oui, de dévouement à cette tâche. Maintenant, non, les conditions d'accueil des élèves ne sont pas satisfaisantes. Les classes sont trop chargées. On manque de moyens pour faire face à des problématiques spécifiques. Je pense au handicap, je pense aux élèves allophones, par exemple. C'est-à-dire des élèves qui sont étrangers, qui ne parlent pas le français. Et puis voilà, les nombreux handicaps ou difficultés scolaires, les lacunes, etc. On n'y répond pas de manière satisfaisante.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant, tout de suite, prendre des décisions d'abord, qui peut les prendre? Le ministère?
Oui, débloquer des moyens, créer des postes. Là, tous les ans, on reçoit une dotation horaire, c'est-à-dire chaque établissement reçoit une enveloppe avec les moyens qui lui seront attribués pour l'année à venir. Et tous les ans, c'est insuffisant.
Ça n'augmente pas?
C'est variable d'un établissement à l'autre, mais non, globalement, ça n'augmente pas. Et globalement, les marges pour y faire face sont sans cesse réduites.
Vous vous présentez comme député dans la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir. Et qu'est-ce que vous voudriez mettre sur la table comme enjeu pour cette deuxième circonscription? Qu'est-ce qui vous tient à cœur?
Nous, on se présente dans la deuxième circonscription comme dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine, ainsi qu'en Martinique et à La Réunion. Dans le prolongement de la candidature de notre camarade Nathalie Arthaud au présidentiel. Nous, on veut montrer que la société est toujours fait face aux mêmes problèmes, c'est-à-dire aux problèmes de chômage, aux problèmes d'inflation, de hausse des prix, de dégradation du niveau de vie, et y compris d'ailleurs des problèmes internationaux avec la guerre en Ukraine en ce moment, et que face à ces difficultés-là, on veut incarner les intérêts du monde du travail. Les intérêts du camp des travailleurs, comme on l'a mis en avant au municipal il y a 2 ans, au présidentiel et maintenant aux législatives.
Le parti Lutte Ouvrière désire porter la voix des travailleurs, comme vous le disiez.
Exactement.
Comment comprenez-vous que, en fait, le vote ouvrier ne se porte pas en majorité sur votre parti Lutte Ouvrière? Pourquoi, à votre avis?
C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, je pense que malheureusement... Ça fait des années qu'on nous explique que tout dépend, notre sort dépend des urnes. Et là, tous les partis, y compris les partis de gauche, ont fait énormément de tort en fait en faisant ça, je pense.
Vous voulez dire se regrouper sous l'appellation NUPES?
Et surtout en faisant croire que notre sort était lié au résultat des urnes. En nous faisant croire que c'était tous les 5 ans qu'on pouvait donner notre opinion et que les choses pouvaient changer tous les 5 ans. Là, Mélenchon qui nous dit que le troisième tour va avoir lieu là, avec les législatives et qu'il faut l'élire Premier ministre, je pense que c'est des impasses.
C'est ce qu'il a mis sur ses affiches, en tout cas.
Et je pense que ce sont des illusions, c'est des marchands d'illusions et qui mènent les travailleurs dans le mur. Et malheureusement, de désillusion en désillusion, on se retrouve aujourd'hui avec les partis, les piliers du système... politiques en France qui sont à moins de 5%, les Républicains, le Parti Socialiste, et puis avec une abstention qui explose, un désintérêt.
Et
voire...
qui va augmenter, si vous pensez que ça va être de pire en pire?
J'imagine. Et puis un désintérêt, un dégoût qui s'exprime. Enfin là, même les gens qui votent ont peu d'enthousiasme et peu d'intérêt pour les élections.
Ils y vont en traînant les pieds, quoi.
Oui. Et malheureusement, ben oui, effectivement, il y a une partie de cet électorat populaire, hein, auquel nous on cherche à s'adresser, qui
Alors, qui va sur le NUPES, qui va sur le Rassemblement national même?
Oui, malheureusement, qui essaie de saisir, de se raccrocher à de nouvelles illusions. Alors, l'union de la gauche repeinte, ravalée avec le ravalement de façade de Mélenchon ou l'extrême droite. Et bien sûr, c'est des choses qu'on combat, hein. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est se préparer un avenir bien difficile. Mais voilà, on en est là.
Alors le NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, réunit la France Insoumise de M. Mélenchon, le pôle écologiste, le Parti communiste et donc le PS. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a empêché de vous agréger à eux, même si vous ne partagez pas? J'imagine que peut-être tous ces partis ne se regroupent pas sous la bannière de façon unanime de M. Mélenchon. Est-ce que peut-être ça aurait été une solution pour vous, pour obtenir davantage de voix, pour obtenir davantage de, j'allais dire, de postes, mais également des postes de députés, bien sûr, et puis aussi de voir certaines de vos idées qui pouvaient être intégrées dans leur programme commun, puisque c'est un programme commun.
Non, je ne pense pas. Je pense que le fond de... En tout cas, bien sûr, il y a des tas de sensibilités qui vont s'exprimer dans cette union, mais le fond quand même de cette union, c'est de faire croire qu'une majorité à l'Assemblée, un certain nombre en tout cas de députés de gauche à l'Assemblée, pèsera sur l'avenir et pèsera et fera pression sur le prochain gouvernement et sur Macron. Et non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on pense que notre force, elle n'est pas dans un certain nombre de sièges à l'Assemblée nationale. La force est la force de notre camp social, cette force-là, elle est dans nos mains.
Oui, mais le camp social, si puissant soit-il, doit quand même pouvoir s'exprimer à l'Assemblée nationale. Il faut quand même que vous ayez des députés.
C'est pour ça qu'on se présente. C'est pour ça qu'on se présente. Non, mais cela dit, vous savez, il est très probable quand même que de cette élection, il sortira un nouveau gouvernement, peu importe sa couleur, qui, de toute façon... dont la politique sera dictée par le contexte. Et le contexte, c'est le chômage, l'inflation sur les matières premières, les crises dans la chaîne logistique avec la guerre en Ukraine, avec le Covid. Enfin, regardez la crise dans laquelle on est plongé. Ça, c'est une réalité qui va s'imposer de toute façon à quelque gouvernement que ce soit. Parce que le fond de leur politique, c'est de gérer le système, de gérer l'organisation capitaliste pour le profit des... Alors, ils disent des entreprises, mais en fait, pour le profit de la bourgeoisie.
Vous êtes professeur d'histoire au Collège Camus de Dreux. Que pensez-vous de votre manuel d'histoire, de ce que vous devez apprendre aux enfants? Est-ce que vous êtes d'accord avec le programme? Est-ce que vous avez toute l'attitude pour l'adapter aux enfants qui sont dans vos classes? Est-ce que vous êtes d'accord, en fait? Voilà.
Je suis tout à fait d'accord pour enseigner...
Pour enseigner
et l'histoire et la géographie aux enfants, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et il est très intéressant, ce programme. Au collège, on a la chance de pouvoir faire depuis la préhistoire jusqu'au temps actuel, en fait. Et oui, je trouve que c'est passionnant.
Sujet.
C'est un vaste sujet.
Depuis la préhistoire, dites-moi. C'est quand même très important, en effet.
Et ça donne un recul historique, ça donne une compréhension sur la marge des sociétés et sur la manière dont elles évoluent qui est très intéressante. Et la géographie ouvre sur le reste du monde. Et...
Ah oui, vous êtes prof d'histoire géo.
Oui.
Bien sûr.
Et non, les deux matières sont très intéressantes.
Bien sûr, et complémentaires.
Et complémentaires.
Il y a aussi une approche de la géopolitique là-dedans.
Relativement peu au collège, ça vient au lycée plutôt. Mais...
Et donc, vous avez toutes les périodes entre la préhistoire et nos jours actuels sont représentées.
Oui.
Il n'y a pas du tout de... Je dis, comme on entend partout, vous ne sautez pas Napoléon, par exemple.
Non, après ça reste un petit chapitre finalement, parce qu'on consacre, assez de temps à la Révolution, à la période post-révolutionnaire, Napoléon, non, on ne saute pas.
Mm-hmm. Et vous arrêtez où en programme ma génération notamment, notre génération, on s'arrêtait à la guerre de 14. Et
ah non, il y avait la Deuxième Guerre mondiale,
la Seconde Guerre mondiale.
Ne songeons pas un seul instant qu'il puisse y en avoir une troisième. Puis, quel âge avez-vous, Adrien Denis?
36 ans.
Ceci explique cela, Jean-Marie.
Oui, bien sûr que ça explique.
Oui, bien sûr.
On parlait de Napoléon, et Napoléon III, on en parle aussi?
Peu.
C'est dommage, rapidement. Non ?
Oui, mais il faut faire des choix.
Il faut faire des choix.
Non, on parle du 19e siècle, on parle de la naissance de la révolution industrielle, de la naissance l'industrie. Des sociétés industrielles, de la colonisation.
C'est plutôt Napoléon III.
Oui, y compris, mais on ne fait pas de chapitre spécifique au règne de Napoléon III.
Pour en revenir à Dreux, la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission, quels enjeux pour cette deuxième circonscription ? Qu'est-ce que vous voudriez corriger, ajouter ? Inventer, quels sont vos espoirs, vos regrets de ce qui n'a pas été fait, de ce que vous espérez pouvoir faire ?
Moi, j'ai pas de regrets particuliers, on n'a pas de bilan, effectivement. Non, bah, j'espère surtout qu'on va réussir à apporter cette voix-là dans la campagne, qu'on fera le meilleur score possible, et puis au-delà que, de toute façon, on poursuivra après, parce que vous avez bien vu que la réforme des retraites, là, dont on nous a annoncé qu'elle avait été gelée après 2019 et le Covid, là, elle est dans les cartons, et il ne faut pas croire que d'ici 3 mois, les choses seront finies. Au contraire, en fait, il y a tout un tas de mesures qui vont nous tomber dessus dans les prochains mois.
On parle de recherche de consensus, justement, pour cette retraite. Est-ce que vous avez... Quels sont vos choix ? Qu'est-ce que vous avez décidé avec votre parti Lutte Ouvrière pour pouvoir aborder cette question de la loi sur les retraites ?
Nous, ce qu'on pense, c'est que avant de demander à des gens de travailler de plus... aux travailleurs de travailler de plus en plus vieux, il faut déjà faire travailler tout le monde. Il n'y a pas de raison de reculer l'âge de départ à la retraite. La productivité n'a jamais été aussi forte. Il y a un chômage de masse qui est gigantesque. Il y a 3,5 millions de gens qui n'ont aucun emploi et bien plus qui ont des emplois précaires ou à temps partiel. Donc commençons par faire travailler toute la population en âge de travailler. Les jeunes cherchent du travail avant de pénaliser les plus âgés, qui d'ailleurs en fait sont très nombreux à ne plus avoir d'emploi. Parce que les patrons... eux ne veulent pas de salariés à 50 ans ou à 60 ans. Donc en réalité, ce que ce genre de réforme prépare, c'est simplement des chômeurs, des vieux chômeurs, des vieux pauvres.
Vous parlez de combien de chômeurs actuellement ? C'est entre 3 et 5 millions, suivant que vous prenez les catégories A, B, C. Comment comprenez-vous néanmoins que beaucoup d'entreprises, en particulier dans la restauration, recherchent des salariés et n'en trouvent pas ?
Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de salariés qui, pendant la crise du Covid, n'étaient pas embauchés et n'ont pas pu bénéficier des mesures de chômage partiel et qui se sont tournés vers d'autres secteurs d'emploi.
Donc, ces restaurateurs ne trouveront
et
plus
donc,
personne.
Et donc, le vivier... Ah ben, sans doute si, mais en tout cas, là, je pense que la crise de l'emploi, elle est liée à ça.
Alors, il faudrait aménager les indemnités de chômage, il faudrait convaincre les jeunes, les former, faire des séminaires. Comment on pourrait résoudre ce problème ? Parce que d'un côté, 3 millions de chômeurs, voire 5, de l'autre, 1 million d'emplois qui ne sont pas pourvus.
Alors ces chiffres, je ne sais pas ce qu'ils représentent, hein, parce qu'on entend toujours parler des emplois qui ne trouvent pas preneur. Bon, moi, ce que je peux vérifier, c'est qu'il y a un certain nombre de chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi, en tout cas, et qui en cherchent activement et qui ont des capacités et des compétences. Bon.
Bah regardez, par exemple, dans la fonction publique, on cherche des instituteurs et des professeurs. Donc
après, voilà, les salaires sont insuffisants pour attirer les gens aussi. Là, vous avez vu les augmentations de tarifs sur les énergies, sur les carburants, même sur les produits alimentaires, on a 10-15% d'augmentation. Donc, si les salaires ne sont pas à un niveau qui permette de vivre, bien sûr que le chômage y se maintient.
Est-ce que vous pensez que les nouvelles mesures gouvernementales vont peut-être aider un petit peu avec cette aide au panier de la ménagère, à une espèce d'allocation sur l'énergie, sur le blocage des prix de l'énergie qu'envisage le gouvernement de M. Macron ? Est-ce que tout ça va servir à quelque chose et donner un petit peu d'air aux personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui cherchent des familles qui cherchent désespérément des ressources qu'ils ne peuvent pas obtenir ?
Bah écoutez, que les prix soient plafonnés ou bloqués, tant mieux. Maintenant, c'est une mesure, c'est un expédient, ça ne durera pas éternellement. Et puis, en fait, dans le fond, ça me choque un petit peu quand même que, qu'aujourd'hui, on nous parle d'aides, de chèques, de primes à droite, à gauche, sur tout un tas de choses. Alors, c'est pour l'énergie, c'est pour le carburant, c'est pour la prime d'activité. Enfin, c'est quand même une manière d'accepter que les salaires sont insuffisants pour vivre. La prime Castex, là, qui devait être versée pour les salaires de moins de 2000 euros, ça veut dire qu'y compris des gens qui travaillent, qui ont des salariés qui ont un emploi à temps plein, ne peuvent pas s'en sortir avec leur salaire. Moi, je pense que ça, c'est quand même le symptôme d'un problème.
Donc, pour vous, évidemment, il vaudrait mieux que les salaires soient beaucoup plus élevés, en tout cas, et que ça ne nécessite pas d'aide directe du gouvernement.
Exactement.
Parce qu'en plus, il faut les cibler, j'imagine.
Il n'y a pas de raison qu'en travaillant, on ne puisse pas joindre les deux bouts et qu'on ne puisse pas vivre correctement. Que les salaires soient aujourd'hui insuffisants pour vivre, permettent tout juste de survivre, oui, c'est choquant. On est dans une des principales puissances mondiales, dans un pays riche.
La sixième.
On voit les résultats des entreprises, y compris de l'industrie, qui finalement s'en sortent pas si mal que ça, voire très bien. Et oui, c'est très choquant que toute une fraction de la population, et pas seulement les chômeurs, mais y compris les salariés, s'enfoncent dans la misère.
Vous avez aussi d'autres candidats qui pourraient peut-être vous rejoindre. Je ne sais pas si ça serait le cas. Je pense par exemple à Mme Jaffrenoux, qui ne semble pas tellement éloignée de vos prises de position. Est-ce que vous pensez qu'une chose comme ça est possible ?
Oui, bah écoutez, on ne se présente pas l'un contre l'autre, je pense. Hein. Et si on porte un certain nombre de sujets communs, tant mieux. Tant mieux.
Et vous les avez évalués, ces sujets communs ? Parce que, vous, a priori, là, sur le papier, vous êtes très proche.
Oui et non.
Oui et non. Qu'est-ce qui vous différencie, alors ?
Vous savez, nous, d'abord, on a décidé d'assez longue date de poursuivre notre engagement au présidentiel et d'offrir la possibilité aux gens qui se sont exprimés sur le vote Nathalie Arthaud de continuer de le faire dans leur circonscription aux législatives.
D'y aller.
Voilà. Donc, y a ça. Et puis après, non, on a quand même aussi des nuances et des sensibilités un petit peu différentes. Nous, on tient absolument à parler de classe sociale, à parler de capitalisme et à parler, oui, du programme pour la classe ouvrière, pour le camp des travailleurs. Voilà, tant mieux si d'ailleurs le POID, Béatrice Jaffrenoux, défend un certain nombre de choses communes.
Parti ouvrier, indépendant et démocratique. Donc, vous avez effectivement de quoi vous rejoindre éventuellement. Ce oui, qui est... Il y a d'autres candidats desquels vous êtes proche ?
Non, enfin, je les connais pas nécessairement tous. Je sais qu'il y a une candidate du Parti communiste révolutionnaire, mais bon, c'est un...
Oui, français révolutionnaire, je crois avoir.
Voilà,
effectivement.
Mais bon, je les connais pas suffisamment pour vous en parler.
On parlait de partage du travail tout à l'heure. Il est très cher à la gauche. Est-ce qu'on y croit encore au partage du travail ? Et si on y croit, il faut l'associer immédiatement avec la mobilité du travail, c'est-à-dire que chacun puisse avoir éventuellement plusieurs métiers, plusieurs emplois, plusieurs employeurs, mais pour ça, il faut se déplacer. Vous voyez ça comment ? Parce que, je prends l'exemple, je suis de Rouen, je trouve un emploi à Chartres. Si le prix du kilomètre va être de plus en plus élevé, cet emploi à charge, je vais le refuser, forcément. Et si en plus de ça, il y a une autoroute qui se fait dans les 5 à 6 années qui suivent, avec le péage, je refuserai complètement. Donc la mobilité, elle est drôlement mal partie, la mobilité du travail. Donc le partage du travail est aussi mal parti. Qu'en dites-vous ?
D'abord, que ce que vous décrivez, en fait, c'est le quotidien de plein de gens.
Oui,
il y a des milliers de gens qui font le
trajet.
Des milliers
de gens qui font Dreux Chartres ou Chartres Dreux, ça c'est sûr.
Ou Paris, ou Dreux Paris, ou Dreux Plaisir. Oui. Vous savez, je connais quelqu'un qui travaille dans un supermarché à Plaisir. Oui. Bon, effectivement, ce que vous décrivez, le coût du déplacement sur le salaire, il est très élevé et de plus en plus, il pèse de plus en plus. Oui. Maintenant, il y a des gens qui continuent à le faire, ça.
Oui, on le voit tous les matins, mais effectivement.
De toute façon, ils sont obligés de renier sur autre chose,
oui,
c'est ça la difficulté.
Est-ce que ça va pas devenir dramatique sur le plan de l'emploi, c'est ça que je veux dire. Parce que si on compte aussi tous ceux, après la crise des Covid, du Covid qui a duré 2 ans, qui se sont trompés éventuellement, enfin, entre guillemets, dirions-nous, en achetant des maisons à la campagne pour être plus tranquilles, est-ce qu'ils ne vont pas le regretter ? Est-ce que, encore une fois, ça va être préjudiciable à l'emploi ?
Peut-être, en tout cas, enfin... Nous, ce qu'on veut dire là, c'est qu'il n'y a pas de raison non plus qu'on... Enfin, de toute façon, les travailleurs, ils sont obligés de courir après l'emploi.
Oui.
Moi-même, je suis venu ici pour travailler. J'avais rien qui m'attirait particulièrement à Dreux, en dehors de ça. Et c'est le cas de plein de gens à l'échelle du pays ou à l'échelle de plusieurs pays, d'ailleurs.
Bien sûr.
Voilà, maintenant, il n'y a pas de raison de se satisfaire que Dreux soit... un désastre industriel et qu'il n'y ait plus d'emplois sur Dreux non plus.
Il enfin, ne ben, faut surtout pas s'y compris. Non.
On va espérer donc que les choses changent. Adrien Denis, merci d'être venu dans nos studios pour parler de votre candidature dans la 2e circonscription de Eure-et-Loir.
Merci de votre invitation.
À la députation. Émilie Glory, directrice d'antenne, enregistrée cette émission qui est aidée par le conseil départemental de Eure-et-Loir. Jean-Marie Pilet, merci. Tu vas continuer à m'accompagner dans mes émissions.
Quelques-unes le plus possible même, oui, pour rencontrer effectivement les gens qui s'intéressent à la vie politique. Et ça,
c'est passionnant.
C'est passionnant.
Au revoir, chers auditeurs. À bientôt dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.